Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 7h30. Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Trouver des candidats pour le grand débat national, le tirage au sort a eu lieu. Il faut maintenant convaincre ces Français désignés par le hasard d'accepter de participer à la conférence du mois de mars. La République en marche voit le bout du tunnel. Après, pour le casting de tête de liste aux européennes, les choses semblent presque acquises. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, figure ces dernières heures comme grande favorite. Difficulté de réunir les preuves. 70% des viols sont classés sans suite, selon l'association contre les violences faites aux femmes. Poussée de fièvre entre l'Inde et le Pakistan, le premier ministre pakistanais appelle à l'apaisement. Le Cachemire, pomme de discorde entre les deux pays depuis des décennies.
Philippe Poutou, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste et ouvrier de l'usine Ford de Blanquefort, sera l'invité de Léa Salamé à 7h50.
France Inter.
Votre téléphone pourrait bien sonner pour participer au grand débat.
Le gouvernement l'a promis pour clore le grand débat national le 15 mars. 70 à 100 participants sont en train d'être tirés au sort dans chaque région de France. Des conférences citoyennes régionales organisées sur 2 jours, soit les 15 et 16 mars, soit les 22 et 23 mars, et cela en fonction des régions. Le gouvernement a missionné la société de sondage Harris Interactive pour contacter ces Français. Il faut faire vite. Reportage de Rémi Brancato au sein de la plateforme d'appel en charge de la mission.
Ils ont l'habitude des sondages d'opinion, mais depuis 10 jours, les téléopérateurs de cette société parisienne doivent recruter.
Nous vous donnons la possibilité de participer à la conférence citoyenne régionale dans votre région à Dijon.
Il faut convaincre 70 à 100 personnes dans chaque région.
Vous ne voulez vraiment pas, sur le principe, participer à cette conférence. Mais monsieur, là, tout ce que vous pensez, sachez que c'est vraiment l'occasion idéale pour le dire.
Ces conférences citoyennes régionales auront lieu du vendredi 16h au samedi après-midi. Alors la mission du grand débat a tout prévu. Des repas payés, un financement pour le déplacement et l'hôtel, et même un petit mot d'excuse pour l'employeur.
On peut vous envoyer en fait un mail ou un courrier postal officiel du gouvernement à votre patron, de manière à peut-être essayer de faciliter en fait votre libération pour le jour de la conférence.
Un tiers des 1400 personnes recherchées a déjà accepté, et pour les joindre, 70 000 numéros avaient été tirés au sort, sans aucun critère, précise Gaspard Lancré-Javal de l'Institut Harris Interactive.
Statistiquement, on ne pourra pas être représentatif. En revanche, la diversité des personnes que nous allons contacter est assurée par la méthode du tirage au sort. C'est-à-dire qu'on a fait un tirage au sort pur, entre guillemets, et donc les personnes qui sont tirées au sort ont toutes les raisons de ressembler à la population française.
Et les opérateurs se préparent à travailler jusqu'à la veille des conférences, puisqu'ils craignent des désistements de dernière minute.
Au revoir, monsieur.
Rémi Brancato. Les préfectures du Rhône et de l'Isère ont mis en place la circulation différenciée aujourd'hui dans le bassin lyonnais et dans le nord de l'Isère en raison d'un épisode de pollution aux particules fines. Seuls les véhicules dotés d'une vignette critère sont autorisés à circuler. Il y a beaucoup de contrôles ce matin dans la région lyonnaise, Christophe Vincent.
Oui, je me trouve porte du Val-Vert, en amont du tunnel de Fourvière, et au feu rouge, on constate que de nombreux véhicules n'ont pas la vignette critère sur le pare-brise. D'ici, leurs conducteurs peuvent s'engager sur l'autoroute A6 ou sur le périphérique. C'est autorisé, un paradoxe, mais s'ils vont en ville, ils risquent une amende de 45 € et beaucoup l'apprennent ce matin.
Je suis pas au courant qu'il fallait mettre la vignette, voilà, tout simplement. Je l'ai pas, non.
Il fallait la commander.
Je vais au boulot, là.
C'est une voiture récente, donc j'avais commandé tout de suite ma vignette critère. On a eu pas mal de communications hier, et sur les radios, et le TCL qui a beaucoup communiqué.
Sur les grands axes, comme la Rocade Est, des panneaux indiquent une vitesse réduite de 20 km/h avec contrôle radar. Mais si vous roulez à 70, beaucoup de véhicules vous doublent, à commencer par les camions.
Et en revanche, à Paris, dans sa proche banlieue, comme dans la métropole lilloise, la circulation différenciée est levée aujourd'hui. La pluie est attendue sur le nord de la France. Et notez cet incroyable record de température, 28 degrés ont été enregistrés hier à Aït-Siritz, dans les Pyrénées-Atlantiques.
France Inter, 7h35, politique, Laurence. C'est La République En Marche, toujours à la recherche de sa tête de liste pour les élections européennes.
Mais à 3 mois du scrutin, La République En Marche semble voir le bout du tunnel. Pour le casting de tête, Cyril Graziani, les choses semblent quasiment arrêtées. Agnès Buzyn, ministre de la Santé.
Après une longue hésitation sur la personnalité la mieux à même de mener le mouvement, deux noms surnagent ces derniers jours, Nathalie Loiseau et Agnès Buzyn, qui depuis quelques heures fait même figure de grande favorite. Emmanuel Macron aime la capacité de sa ministre de la Santé à recréer une proximité avec le message européen et il privilégie cela à l'expertise de celle des affaires européennes, Nathalie Loiseau, diplomate de carrière, mais peut-être jugée trop techno. Après le casse-tête de la tête de liste, viendra celui du reste de la liste où là, rien n'est franchement acté. 79 noms à désigner. Au vu des derniers sondages, il pourrait y avoir une vingtaine d'éligibles et beaucoup d'amis de partenaires à satisfaire. Cette vaste liste centrale pro-Europe autour de la Macronie doit agréger le MoDem de François Bayrou, le parti de centre-droit Agir fondé par Dex Heller et le mouvement radical. Là encore, c'est Emmanuel Macron qui aura bien sûr le dernier mot.
Cyril Graziani, à présent, cette question, pourquoi un très grand nombre de viols sont-ils classés sans suite? Ces derniers jours, plusieurs plaintes pour viols contre des personnalités médiatiques n'ont pas abouti. Des affaires nées en plein contexte post-MeToo, ce mouvement de libération de la parole des femmes après la révélation de l'affaire Weinstein en octobre 2017. Le mouvement a poussé de nombreuses femmes à porter plainte, plus 17% pour viols, plus 20% pour agressions sexuelles. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Or, ces plaintes sont classées sans suite. Alors, est-ce à dire que les paroles de ces femmes ne sont pas entendues par la justice? Réponse de Laure Ignace de l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Elle n'est pas étonnée.
Ça a toujours été courant que les plaintes pour viol soient classées sans suite. Et là, les derniers chiffres qu'on a montrent que 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite en France. Il faut savoir que les enquêtes pour arriver à recueillir des éléments de preuve sont des enquêtes très longues qui demandent d'entendre beaucoup de personnes puisque les femmes déposent plainte assez souvent, longtemps après les viols qu'elles ont subis. Donc, il n'y a pas de preuves matérielles qui peuvent être recueillies. Ces enquêtes sont essentiellement des enquêtes de témoignages, ce qu'on appelle la technique du faisceau d'indices graves et concordants. Ce sont des enquêtes qui demandent des moyens, du temps, que beaucoup d'enquêteurs en France n'ont pas.
Est-ce que pour autant vous encouragez les femmes à aller porter plainte?
Nous, on n'encourage jamais une femme à aller déposer plainte. On les informe qu'elles ont cette possibilité, que c'est une voie de droit qui va être longue, sinueuse, compliquée et difficile, et que si elles veulent s'engager dans cette voie-là, on sera à leur côté.
Propos recueillis par Corinne Audouin. À l'étranger, une poignée de main, de la bonne volonté, du dialogue. L'histoire continue de s'écrire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dernier jour du sommet de Hanoï. On attend ce matin la déclaration commune de Kim Jong-un et de Donald Trump. Y aura-t-il des avancées concrètes à ce stade du sommet? On sait seulement que le leader nord-coréen apprécierait l'ouverture dans son pays d'un bureau de liaison américain. Un bureau de liaison, ce n'est pas vraiment une ambassade, mais cela permet à deux pays de communiquer 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Deux autres puissances nucléaires qui se font face, c'est une situation très inquiétante.
La tension s'est brutalement aggravée entre les deux frères ennemis d'Asie du Sud. Les deux pays ont tous deux affirmé avoir abattu des avions du camp opposé. Au cœur de cette dangereuse escalade militaire, le Cachemire, région frontalière revendiquée depuis 1947 par l'Inde et le Pakistan, l'espace aérien pakistanais a été fermé. Le premier ministre pakistanais Imran Khan tente toutefois l'apaisement face à son homologue nationaliste. Il lance un vibrant appel à Narendra Modi.
Dans chaque guerre mondiale, il y a eu des erreurs de calcul. Ceux qui ont déclaré ces guerres n'ont jamais pensé où elles allaient les conduire. La Première Guerre mondiale devait s'arrêter au bout de quelques mois. La Seconde Guerre mondiale, Hitler pensait que l'invasion de l'URSS serait réglée avant l'hiver et il a perdu. Je demande au gouvernement indien, avec les armes que nous avons des deux côtés, pouvons-nous nous permettre une erreur de calcul? S'il y a escalade cette fois-ci, jusqu'où irons-nous? Ni moi, ni Modi ne pourrons contrôler. Le bon sens devrait prévaloir.
Et conséquence de la fermeture de l'espace aérien pakistanais, des milliers de vacanciers sont bloqués en Thaïlande à l'aéroport de Bangkok. Une trentaine de vols, la plupart en provenance ou à destination de l'Europe, qui devaient transporter près de 5000 passagers, sont affectés. Air Canada a également annulé tous ses vols à destination de l'Inde, faute de routes aériennes alternatives. Du mieux, mais ce n'est pas encore la grande forme pour le monde de l'édition. À deux semaines du Salon du Livre de Paris et après une année 2018 médiocre en termes de ventes, les professionnels attendent avec fébrilité les chiffres de ce début d'année. La locomotive Michel Houellebecq était attendue, mais elle ne peut pas, elle seule, garantir la bonne santé du secteur. Ilana Mor-Youssef. Les chiffres de février seront connus dans quelques jours. Pour janvier, on sait déjà, les ventes sont en légère hausse. C'est l'effet sérotonine, reconnaît Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition.
C'est pas gigantesque, mais on est à plus 0,4%. Il y a un effet Houellebecq qui est certain, parce que c'est sûr qu'une grosse locomotive qui arrive dès les premiers jours de janvier, eh bien ça impressionne le marché. On avait une rentrée littéraire en janvier très forte avec 493 titres. Évidemment, tous n'auront pas la même chance à l'arrivée, mais globalement, le trafic en librairie est tiré par toutes ces nouveautés et Houellebecq n'est pas le seul à en tirer profit.
Et on pourra compter dans les prochaines semaines sur pas mal de poids lourds.
D'autres gros titres vont arriver sur le marché, que ce soit Michel Bussy, Guillaume Musso, Marc Lévy, Delphine de Vigan et d'autres. Il y aura un Astérix cette année, donc c'est toujours un événement important. Et puis, il y a une réforme des lycées qui est en cours, dont les premiers effets seront connus dans les ventes de manuels scolaires au mois de septembre. Ça aura aussi un effet sur le trafic en librairie, donc on peut attendre une année 2019 positive.
Mais tout cela ne dit pas grand-chose de l'inquiétude des éditeurs, des tirages moyens en baisse continue, et pour la fiction, la concurrence des séries et des plateformes type Netflix. En football féminin, l'équipe de France affronte ce soir l'Allemagne à Laval en match de préparation à la Coupe du Monde qui aura lieu en France à partir du 7 juin. Un match test face aux championnes olympiques en titre pour des Bleus qui entrent dans la dernière phase de leur préparation. Cédric Guillou.
Une dernière ligne droite que la capitaine des Bleus, Amandine Henry, aborde avec enthousiasme.
Il y a de l'excitation forcément hein, quand on voit tout, que tout est prêt autour de nous, que tout le monde a hâte de nous voir fouler cette pelouse. Oui, il y a de l'excitation et en même temps, on savoure aussi les derniers moments parce que ça nous permet aussi de peaufiner les derniers détails et de bien se préparer pour être présente le jour J.
L'équipe de France a marqué les esprits en battant les États-Unis championne du monde en titre le 19 janvier dernier au Havre, 3-1. Une performance pleine d'espoir qui galvanise autant les joueuses que le public français. Ce soir, le stade Francis Lebasserre de Laval sera à guichet fermé pour ce match face à l'Allemagne. La sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre.
Ça veut dire que tout simplement qu'on se rapproche de cette compétition, même si on a encore un petit peu de travail à faire, donc c'est bien, même si ça va passer effectivement également très très vite. Je pense que les gens commencent à eux aussi préparer leur Coupe du Monde, commencer à venir s'échauffer en tribune, donc c'est plutôt, pour nous en tout cas, c'est plutôt positif.
L'équipe de France féminine a encore 6 matchs pour peaufiner sa préparation avant son entrée en lice dans sa Coupe du Monde le 7 juin prochain.
J'ajoute cette information de dernière minute. Aucun accord n'a été conclu à Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les deux pays comptent se revoir, disent les équipes de Donald Trump et de Kim Jong-un.
Merci Laurence. Avant l'édito politique, la route.
Point route avec Calibat. 73 000 entreprises et artisans pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Jules Dequis, c'est à l'est de Paris qu'on perd le plus de temps sur la route.
Oui, il y a 3 accidents sur 3 des principaux axes à l'est de la capitale. Sur l'A4 en direction de Paris, il y a un accident à hauteur de Champigny. Sur l'autoroute A3 vers le nord en direction de Roissy, à hauteur d'Aulnay. Et sur la francilienne, la 104 après Villeparisis en direction du sud. À chaque fois des petits ralentissements d'un quart d'heure, mais globalement, ça roule quand même plutôt bien. On est en dessous de la moyenne des bouchons.